texte qui nous est proposé ce matin se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Apocalypse 21, nous lirons à partir du verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. » Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs.
Bien, c'est un grand plaisir d'être devant vous ce matin et j'espère que nous passerons des moments bénis sous le regard du Seigneur. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais juste un tout petit passage. Il y a quelques mois de cela, j'ai été touchée par la disparition d'un être cher. Les derniers mois ont été difficiles, car la maladie l'avait défiguré. Lorsque nous sommes allés pour remettre ses affaires en ordre, que de moments difficiles. Chaque meuble, chaque objet me disait qu'il manquait quelqu'un dans cet endroit que je connaissais si bien. Mon frère n'était plus là. Et puis, il y a eu comme une puissance qui est entrée en moi et un verset biblique me résonnait dans la tête. Et il me disait, lorsque je m'en vais et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez. Quelle belle promesse. La souffrance n'épargne personne. Elle est inhérente à la condition humaine. Elle peut venir de partout, elle peut atteindre le corps, le psychisme, la vie sociale, la vie spirituelle. Il faut nous protéger de cette souffrance inutile, ne pas nous laisser détruire par cette souffrance. La souffrance n'est pas une alliée, mais un adversaire. Jésus nous a montré comment vivre la souffrance quand elle est inéluctable. Comment, en la vivant dans la présence de Dieu et la grâce de Dieu, elle deviendra une étape de maturité et mènera à la vie éternelle. Il faut parfois passer par des moments difficiles pour changer nos objectifs, nos priorités. La Bible décrit la vie comme une nuée, une course rapide. Elle nous dit, car nous sommes d'hier et un peu plus loin, nos jours sont comme une ombre sur la terre. La Bible compare souvent la vie à un séjour temporaire dans un pays étranger. Ce n'est ni notre demeure permanente, ni notre destination finale. Nous ne faisons que passer, nous sommes en visite. David disait, je ne suis qu'un étranger sur cette terre, et Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 17, vous donnez le nom de Père à Dieu, et un peu plus loin, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Aux États-Unis, Des étrangers qui viennent du monde entier pour travailler gardent leur citoyenneté d'origine. Ils portent sur eux une carte verte qui leur permet de garder leur citoyenneté. Les chrétiens devraient porter sur eux des cartes vertes spirituelles qui leur permettraient ou qui leur rappelleraient que leur citoyenneté est dans les cieux. Dieu dit que ses enfants ne doivent pas considérer la vie comme des non-croyants. Et Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit, au chapitre 3 et au verset 19 et 20, « Leurs pensées sont toutes dirigées vers ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ. » Les vrais chrétiens comprennent que la vie est loin de se limiter aux quelques années qu'ils passent sur cette planète. Notre identité est dans les cieux et notre patrie est au ciel. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de fondation. Si nous voulons résister pendant les moments difficiles, il nous faut des racines. Il faut tourner nos regards vers Dieu. Il nous tend la main, nous offre son aide, nous montre quel chemin suivre pour devenir des êtres solides, stables, enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Dieu dit que nous avons en lui un soutien, un réconfort. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit que nous devons cultiver nos racines. La Bible nous dit, dans Jérémie 17, les versets 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. » Ce passage donne une raison pour laquelle nous avons besoin de bonnes racines. Tenir bon pendant les moments difficiles, c'est-à-dire des temps de chaleur et de sécheresse. Les racines sont les canaux par lesquels toute la plante ou l'arbre se nourrit. Vous est-il arrivé de vivre des moments de forte chaleur, de pression intense? Un jour ou l'autre, nous sommes touchés par la souffrance, tous. C'est là qu'il nous faut des racines. Vous connaissez certainement ces arbres presque indestructibles, les séquoias. Ils ont tellement d'énormes racines qu'ils peuvent résister à de gros incendies de forêt et à des entailles de plus d'un mètre dans le tronc. Et les cactus, ces cactus qui fleurissent à une température de plus de 50 degrés. Je suis allée aux États-Unis et j'ai vu dans le désert du Nevada ces cactus. Et pourquoi ils fleurissent? Bien parce qu'ils ont des racines qui vont dans toutes les directions et ils ont 20 mètres, sur 20 mètres de profondeur. Il y a quelque temps, je lisais un article sur les bananiers et ce sont des arbres presque indestructibles. On peut les découper en petits morceaux, ils repousseront. On peut les brûler, ils repousseront. La seule façon de les détruire, c'est de les déraciner. N'importe qui peut survivre à une journée de sécheresse, mais survivre longtemps au stress est une autre affaire. Par exemple, si les liquidités de votre entreprise ne sont pas bonnes pendant un mois, vous direz probablement, eh bien tant pis, nous nous rattraperons le mois prochain. Mais au bout de 2 mois, si les choses ne s'arrangent pas, vous allez peut-être être un peu plus inquiet. Et au bout du troisième mois, vous allez peut-être paniquer. Et au quatrième mois, vous pourriez bien faire une dépression, à moins que vous ayez des racines. Les racines sont le secret du fruit, de la force que nous donne Dieu. Et dans Proverbe 12, verset 3, déclare « L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. » Les hommes justes peuvent résister à la chaleur. Ils peuvent traverser les périodes arides de la vie. Mais comment cultiver nos racines ? Que nous dit le psalmiste ? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le psalmiste parle d'une vie stable parce que, profondément enraciné, il dit que ses racines se développent par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La méditation biblique permet d'être fortifié dans l'être intérieur, car elle apporte le bien-être dans la vie du croyant. Et notre Seigneur Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 4, verset 4, déclarant « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais il faut, pour être fécond, productif, solide, éliminer les mauvaises herbes de sa vie. Jésus illustre cette vérité dans la parabole du semeur. Il mentionne plusieurs sortes de terrains représentant chacun une des façons dont on peut réagir et répondre à la parole de Dieu. Luc nous dit « La semence, c'est la parole de Dieu. » Et un peu plus loin, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Si nous voulons porter du fruit, il nous faut cultiver de bonnes racines et éliminer les mauvaises herbes. Il y a beaucoup de mauvaises herbes dans notre vie et des différentes qui peuvent envahir nos vies et étouffer la vitalité spirituelle que Dieu a donnée. Ce sont les préoccupations et autres sujets d'intérêt qui prennent notre temps, notre énergie et notre argent. Bien des gens disent « Je n'ai pas vraiment le temps de servir le Seigneur. Je suis trop occupée. Je n'ai pas le temps de m'impliquer. » Si cela est vrai pour nous, c'est que nous sommes trop occupés. Il est temps que nous fassions un bon désherbage. Bien des choses dans cette vie ne sont pas forcément mauvaises. Disons qu'elles ne sont pas nécessaires. Peut-être devons-nous revoir un peu notre programme et éliminer les mauvaises herbes. Elles sont le signe d'une certaine négligence. Quand nous négligeons la Bible, la prière, les mauvaises herbes poussent et étouffent notre vie spirituelle. Jésus mentionne trois sortes de variétés de mauvaises herbes. Il y a d'abord les inquiétudes, c'est-à-dire les préoccupations et les soucis quotidiens qui poussent à détourner nos yeux de Jésus. Le plaisir, qui peut suffire à étouffer notre vie spirituelle. Il n'y a bien sûr aucun mal à avoir du bon temps, mais nous devons veiller sur nos priorités. Quand la plage compte plus que la Bible, c'est que nos priorités sont déséquilibrées. Il y a ensuite les richesses, cette fixation sur le désir de gagner plus pour acheter plus de choses, et qui peut finir par dominer notre vie au point que nous n'ayons plus de temps pour le Seigneur. Il y a très longtemps, nous sommes allés écouter les Heritage Singers. C'était magnifique. Il y avait dans ce groupe un jeune homme blond avec une voix de basse hors du commun. Et puis un jour, il est parti. Il a voulu chanter de la country. Il a créé son groupe. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a réalisé son rêve, avoir un ranch avec des chevaux. Et puis, il s'arrête. Il rentre chez lui, et un jour, il dormait tranquillement. Et à 2h du matin, le téléphone sonne. Salut Mac, comment ça va? Et tu me réveilles à 2h du matin pour me demander mes nouvelles? Non Mac, mais je voudrais savoir où tu en es avec Christ. Mais tu es fou, il raccroche. À partir de ce moment-là, c'est fini. Il n'arrivait plus à dormir. Il faisait les 100 pas dans sa propriété, marchait de long en large. Et puis, ces mots, ces phrases résonnaient dans sa tête. Mac, où en es-tu? Où en es-tu à l'intérieur de toi-même? Pourquoi m'as-tu laissé, m'as-tu oublié à ce point? Quelque chose venait de se produire en lui, de naître en lui. Le lendemain matin, il appelle son impresario et lui demande d'annuler tous ses rendez-vous. Il lui dit, mais tu es fou. Si tu annules tous tes rendez-vous, si tu arrêtes, tout est fini, ta vie de château. Ton ranch, tes chevaux, tu n'auras plus rien. J'ai un autre contrat. Mais tu es fou. C'est impossible. Si. Parce que c'est avec le Seigneur. Et depuis ces jours, depuis ce jour, il chante gratuitement dans toutes les églises du monde adventiste pour la gloire du Seigneur. Dans la perspective de vivre auprès de lui éternellement, son objectif avait changé. Il venait de comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il avait un don que le Seigneur lui avait donné et il voulait le mettre au service de son Dieu pour sa gloire. Cette question est posée à chacun d'entre nous dans la vérité de notre histoire. La vie est courte et le Seigneur nous appelle pour sa gloire dans la perspective de vivre auprès de lui éternellement. Passons du temps, chaque jour, à lire, méditer, étudier, mémoriser la parole de Dieu et à lui obéir. Lorsque l'on prend conscience de tout cela, lorsqu'on réalise que la vie est éphémère, son sens a une autre portée, une autre valeur, tout change. La vie sur terre est une épreuve. Nous souffrons pour de multiples raisons. Nous sommes aussi éprouvés par des problèmes insolubles, par des prières sans réponse, par des critiques imméritées. Le Seigneur observe sans cesse nos réactions face aux gens, aux succès, aux conflits, aux déceptions, à la maladie. Certaines épreuves nous semblent insurmontables, d'autres inaperçues, mais toutes ont des conséquences éternelles. Demandons à Dieu de voir la vie sur la terre avec son regard. La parole de Dieu donne naissance à la vie, crée la foi et produit un changement dans nos vies. Elle permet de surmonter les épreuves. Nous redonne espoir, intervient avec puissance, purifie nos pensées et promet un avenir éternel. Il est impossible de vivre sans elle. La parole de Dieu est notre nourriture de base, indispensable à l'accomplissement de notre objectif, de notre but. La Bible, c'est notre lait, notre pain, notre nourriture solide et notre miel, nous dit la Bible. Un jour, l'histoire se terminera, mais l'éternité durera toujours. William Carré a dit « L'avenir sera aussi merveilleux que les promesses de Dieu ». Rappelons-nous que nous recevrons une promesse éternelle, comme nous garantit la parole de Dieu. Et nous trouvons ce texte dans 2 Corinthiens 4, verset 17. « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent sur nous, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Imaginons le jour où nous nous tiendrons devant le trône de Dieu. Nous lui présenterons notre vie, le cœur débordant de reconnaissance et de louange à Christ. Ensemble, nous dirons, et nous trouvons ce passage dans Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Oui, nous louerons notre Seigneur et nous vivrons éternellement auprès de lui. C'est la promesse qu'il nous a faite. Amen.